Des averses sur le massif central et sur les Alpes, quelques-unes aussi près de nos frontières du nord, beaucoup de nuages toujours jusqu'au centre. Et là où il devrait y avoir le plus de soleil demain après-midi, c'est en Bretagne.
Des maths, bonjour, Gaël est à la technique et Yves Averti est au micro pour le numéro 328 de Bretagne Zone Heureuse, le magazine de l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, pour la première fois dans cette émission, nous allons présenter un événement qui va se dérouler dans le département de Vendée. Le samedi 5 mai, la Vendée en effet accueille au Vent d'Espace, à Mouilleron-le-Captif, une création originale exceptionnelle, Chouan. La nouvelle fresque musicale historique d'Alan Simon. Après Excalibur, Anne de Bretagne et Tristan et Iseut, l'auteur-compositeur Alan Simon propose Chouan, son nouvel opéra rock, le samedi 5 mai. Et il est dès aujourd'hui dans le studio d'Alternante FM pour nous présenter cette nouvelle aventure. Alan Simon, bonjour.
Il dit Matt, Yves, salut.
Donc heureux de te recevoir pour parler de Chouan, mais avant de parler de Chouan, mm-hmm. Il y a une autre actualité toute récente et très triste, c'est le vol du chœur d'Anne de Bretagne, un chœur qui t'a inspiré pour l'opéra rock Anne de Bretagne qui avait été créé au château des Ducs de Bretagne à Nantes, puisque même sur la couverture du disque, de l'affiche, c'était ce chœur qui vient d'être volé. Donc évidemment, tu dois être complètement troublé par ce vol qui, vu de notre point de vue, est incompréhensible.
Oui, enfin, je suis plus que troublé. Je suis, comme beaucoup, beaucoup de gens, atterré, très en colère. Bon, j'ai écrit une petite lettre ouverte. Beaucoup de gens essaient de réagir aussi. On espère tous, surtout, que l'irréparable ne sera pas commis, c'est-à-dire qu'il ne sera pas fondu pour quelques centaines de grammes d'or. Enfin, c'est complètement fou parce que c'est notre histoire. Je ne sais pas comment ces gens ont réussi à voler cet objet. Je trouve ça d'ailleurs assez incroyable. En fait, c'est un autre débat. L'important, c'est que cet objet revienne, cet objet de notre histoire, qui est le cœur des Bretons, qui symbolise le cœur des Bretons, revienne à sa place, revienne à Nantes, dans la ville d'Anne de Bretagne. Je pense que c'est très important. Et voilà, on est tous atterrés. Ce n'est peut-être qu'un objet, mais c'est un objet extrêmement important pour la mémoire de la culture bretonne.
Et oui, et puis même dans l'histoire de France, il y a très peu Bien d'objets sûr. Comparables, quoi, oui. de cette valeur patrimoniale de souvenirs. C'est, voilà. Et donc, Anne de Bretagne avait décidé que son cœur, sous cette forme-là, revienne à Nantes. Oui. Et tu l'as fait chanter par celle qui interprétait Anne de Bretagne. C'était donc Cécile Corbel dans l'opéra rock. Et avant de parler de Chouan, on va écouter quelques instants de cette chanson que tout le monde a gardée dans l'oreille et qu'on peut réécouter en réécoutant le disque, comme celui-là que j'ai à la main. Donc un extrait tout d'abord donc, de l'opéra rock Anne de Bretagne, le morceau Anna Vraise par Cécile Corbel.
Le soleil m'abandonne et la mort me fredonne la chanson de l'hiver et je revois mon père, je revois son visage. Dans le ciel d'Italie, trois étoiles pleurent encore. Dans la chambre mortuaire, tapissée de soie d'or, le Seigneur de l'Hermine vit en beau. Moi la fille de je ne crains pas l'amour.
Anne de Bretagne, en espérant retrouver son cœur véritablement et qu'il ne soit pas détruit, mais qu'il revienne au musée d'Aubray. Et on attaque tout de suite avec Chouan, puisque ton nouvel opéra rock qui va être créé donc en Vendée ce 5 mai, c'est l'opéra rock Chouan. Alors Chouan, c'est une fresque qui retrace en 20 grands tableaux les temps forts de la Révolution française, de la guerre de Vendée et de la chouannerie. Alors comment est né ce projet, Alan ?
Alors en fait, c'est une histoire qui me passionne, qui m'intéresse depuis très 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 longtemps. Sauf que je n'osais pas en fait m'attaquer à ce projet pendant des années parce que c'est un projet très sensible. Alors on va mettre les pieds dedans, donc c'est un génocide. C'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens, mais c'en est un. Il s'agit de 300 000 morts estimés du côté seulement vendéen et guerre de l'Ouest, c'est-à-dire la Bretagne et au-delà.
Oui, parce que ce que tu veux mettre en avant aussi, ça s'appelle Chouan, ça ne s'appelle pas les Vendéens.
Bien sûr.
Les Chouans, c'est la Mayenne, la Bretagne, voilà. La Vendée. Donc c'est parler de tout ce monde-là.
C'est parler de tout ce mouvement, de toute cette guerre d'insurrection qui a eu lieu sous la Révolution française, qui avait basculé dans la terreur en 1792-93 particulièrement, et qui donc, où Paris... Barrère, premier président de l'Assemblée nationale, enfin c'est incroyable, fait une déclaration, il dit « détruisez la Vendée et la Prusse ne nous regardera plus du mauvais œil, détruisez la Vendée et etc. » Enfin, il invoque toutes les menaces extérieures de la toute jeune République française et tout à coup, la Vendée est coupable de tous les maux de la jeune République. Et donc, ils envoient des colonnes infernales, ils envoient des généraux qui vont marcher sur la Vendée et qu'ils vont massacrer femmes, enfants, vieillards, tout le monde.
Et la Vendée, d'ailleurs, un terme créé par eux, puisque c'était là, cet endroit-là, c'était le Poitou, ou l'Anjou, ou la Bretagne. Mmh. Et donc la Vendée, c'était un département qui existait depuis peu de temps. D'ailleurs, c'est étonnant que le mot vendéen se soit imposé aussi vite, parce que c'est le nom donné par l'oppresseur aussi.
Et la Vendée avait même été rebaptisée à un moment donné Vengée. C'est-à-dire que tous les noms de la Vendée ont été modifiés pendant la Révolution française, pendant un certain temps. Ce qui s'est passé là, c'est quand même une histoire absolument incroyable. Alors, c'est comme Anne de Bretagne, quand j'ai travaillé sur le projet Anne de Bretagne, j'ai fouillé les archives au mieux, j'y cherchais, je suis allé au département, etc. J'ai lu des livres, films, il n'y en avait pas sur Anne de Bretagne, ou presque pas, ou quelques documentaires, mais... Sur la Vendée, les guerres vendéennes ou la chouannerie du Grand Ouest, il y a des documents qui existent. C'est plus proche aussi, hein. On est quand même, ça a 220 ans.
Et puis on écrivait plus aussi, on publiait par l'imprimerie beaucoup plus.
Voilà, on peut suivre un peu plus le fil, évidemment, carrément plus clairement. Et donc les archives sont vraiment, mais vraiment terrifiantes. Plus j'avançais, plus j'étais, mais sidéré de ce que... La jeune République, qui a quand même fait quelque chose de magnifique, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a même lancé l'idée de l'abolition de l'esclavage, quand vous savez que cette idée-là, elle provient de Robespierre quand même, c'est quand même incroyable, quelle contradiction. Et dès l'an 3 de la République, ou l'an 4 de la République, ils se contredisent totalement, il y a plus... Voilà, si vous faites un signe de croix, bah vous êtes suspecté d'être évidemment monarchiste, Dieu est le roi, la fameuse phrase. Et donc, bon, ces pauvres paysans, ces petites gens dont nous sommes tous les descendants ici, dans l'ouest de la France, en Bretagne et en Vendée, voilà, il y a une espèce d'incompréhension de ces descendants des... Incompréhension qui est terrifiante, hein, je m'entends, de ces gens qui descendent des Lumières, de Jean-Jacques Rousseau, enfin qui se voulaient être Voltaire, etc., et qui tout à coup osent comme ça envoyer des armées pour tuer les gens. Enfin, c'est quand même incroyable. Alors, l'histoire est plus complexe que ce que je vous raconte là en quelques mots, mais c'est bouleversant. Donc évidemment, écrire un libretto sur ce sujet me tenait beaucoup à cœur.
Donc dans l'histoire que tu as écrite, on retrouve les personnages historiques, et notamment celui qu'on va entendre chanter tout de suite, c'est l'un des plus connus, aussi parce qu'il est très séduisant, oui. C'est Charette, oui. Qui est interprété par Tristan Descamps, le fils de Christian, donc là c'est Tristan, du groupe Ange, bien entendu, mm-hmm. Et le morceau s'appelle « Au nom de tous les miens ». Donc interprété par Christian Descamps, un extrait du nouvel opéra rock d'Alain Simon Chouan qui sera donné en Vendée donc le 5 mai, le samedi 5 mai, c'est important de répéter la date, c'est dans peu de temps.
Précise une chose aussi, c'est que le disque, ne le cherchez pas, il n'est pas sorti. Hein. Il sortira.
C'est presque une première mondiale, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, parce qu'on l'a mixé vite fait et bien fait, j'espère, pour Alternante. Il ne sortira qu'au mois de novembre, l'album. Il y a la première live donc le 5 mai. Qui me tenait beaucoup à cœur, voilà, et j'espère que vous serez très nombreux à venir partager ce grand moment, et l'album sortira donc quelques mois plus tard.
Donc on va retrouver de nombreux personnages historiques, hein, des deux camps, on va dire Robespierre, Louis XVI, Danton, Cadoudal, Charette, Hoche, La Roche-Jacqueline, Delbé, Catelineau, Carrier, donc même Carrier, tous les grands personnages de cette saga, ça veut dire que tu as réuni pour la scène 100 artistes, donc c'est toujours aussi fort, donc on va peut-être d'abord parler des têtes d'affiche.
Oui.
Alors, donc il y a Ange, comme souvent Christian.
Oui. Ange, donc emblématique groupe de rock progressif des années 70, toujours en vie, qui va sur ses 50 ans de scène, qui fait d'ailleurs un vrai succès. Là, la tournée Ange heureux, apparemment, affiche complet partout, ce qui me réjouit parce que c'est des vrais artistes de scène. Et le scoop sur Ange, c'est qu'il y a les trois Descamps. Pour la première fois, il y a Francis Descamps qui rejoint Christian Descamps qui avait fondé le groupe en 1969 et avec Tristan bien sûr qui est l'héritier merveilleux du groupe Ange parce que c'est un vrai chanteur et c'est un type adorable en plus. Donc on a donc trois membres de Ange. Nous avons aussi, et ça c'est une chouette nouvelle, Renaud de Tressan qui est l'auteur-compositeur et l'un des chanteurs du groupe Soldat Louis. Qui est un type aussi adorable et talentueux, et je suis très content de cette rencontre. Et puis, il y a un narrateur merveilleux. Oui. Alors là, je pense qu'il faut en parler, parce que tout le monde se souvient bien sûr de Thierry Lafronde, c'était notre enfance, les années 60, avec les rediffusions qui ont eu lieu après. Et Jean-Claude Drouot, qui est un monsieur qui a aujourd'hui, qui va fêter ses 80 ans, dans quelques jours d'ailleurs, est un type délicieux, très intelligent, un homme de théâtre.
C'est un très grand comédien.
Très grand comédien,
oui. Il n'y a pas fait que Thierry Lafronde dans sa vie, non, où il était tout jeune. Moi, je l'avais beaucoup apprécié dans un film de l'époque, que j'ai vu après, parce que j'étais très jeune, moi aussi, à cette époque-là. Le film Le Bonheur d'Agnès Varda, qui est formidable. Oui. Et puis, plein de gens l'ont vu à la télévision dans plusieurs sagas ou séries, évidemment.
Les gens de Mogador, Les Rois Maudits. Il y en a eu un paquet.
Gaston Phébus. Il a fait beaucoup de théâtre également.
Oui.
Donc, il sera parfait en narrateur. Tu aimes beaucoup, quand tu racontes une histoire comme ça, un narrateur fort.
Je pense
fort.
Que ça campe l'histoire, ça pose l'histoire, ça crée un repère. Alors, avec l'expérience et les années passant, je suis encore plus exigeant. C'est-à-dire que je veux vraiment un narrateur beaucoup plus puissant que ce que j'ai pu avoir encore dans le passé. La chance. Et donc, c'est vrai que le choix de Jean-Claude Drouot, qui est un type en vieillissant, il a une grosse voix, il est solide, il joue, il vit les textes. D'ailleurs, il est tellement exigeant que, dans le bon sens du terme, parce qu'on est devenus très très amis, très proches, il m'appelle souvent, on s'adore, c'est vraiment une chouette relation, parce que c'est un chouette gars, et il m'a dit, écoute, là ton texte ici, il est sympa, mais j'ai un texte sur la guillotine, je vais te le lire. Et il m'appelle à 2h du matin, et c'est pas une bêtise, il me lit un texte qu'il a trouvé dans des archives sur la guillotine. Je lui dis, mais t'as raison, le texte est 10 fois plus puissant que ce que j'ai pu écrire. Allez, on le remplace. Donc il est là au service du projet, parce qu'il veut partager quelque chose de fort. Il sait la responsabilité qu'il a, particulièrement en Vendée, sur ce projet.
Alors, on va continuer à écouter, à découvrir la musique de l'opéra rock, parce qu'on va continuer à parler de l'opéra, mais comme on peut écouter 4 morceaux aujourd'hui, donc on en profite. Et maintenant, c'est le père, après Tristan Descamps, on va écouter Christian Descamps, donc la voix du groupe Ange, qui interprète le rôle de Jean Chouan, et le morceau, c'est l'Infernale Danse. Christian Descamps chantant l'Infernale Danse, donc un extrait de Chouan, l'opéra rock d'Alain Simon. On a parlé de plusieurs personnes qui allaient participer, un grand comédien, Jean-Claude Drouot, et des chanteurs. Mm-hmm. Mais tu as fait très fort pour une histoire où il y a beaucoup d'hommes. Tu as quand même trouvé des femmes pour jouer plusieurs rôles. Eh bien, je te dis bravo. C'est facile de trouver des artistes de nos jours pour jouer, des femmes artistes pour chanter ou jouer. Mais tu as réussi à en programmer dans ce spectacle où il n'y avait quand même pas tant de personnages féminins que ça.
C'est vrai. Le monde était très machiste, il l'est encore d'ailleurs, mais bon, on a fait quelques petits progrès. On a
et donc une super voix que pour le moment je n'ai jamais entendu chanter qu'en breton, moi c'est Kohan, et là elle va chanter en français je suppose.
Et oui, elle chante en français une chanson qui s'appelle Céleste Bulclair, enfin l'Amazone. Céleste Bulclair qui était une des Amazones de la contre-révolution, qui était une femme qui tenait tête aux hommes et qui avait pris d'ailleurs le commandement d'une armée à un moment donné. Elle protégeait les arrières même des Vendéens, notamment dans une bataille à La Roche-sur-Yon en 1793. Donc oui, 1793. Une femme assez étonnante. Et puis il y a Madame de La Roche-Jacquelin qui est incarnée par Dana, une jeune harpiste chanteuse qui chante aussi en breton, qui avait osé chanter en breton dans The Voice, mon Dieu, my God.
Et qui s'est fait remarquer grâce à ça.
Et qui s'est fait remarquer grâce à ça, qui est une fille adorable et qui a du talent, qui a une autre chanson qui s'appelle Monsieur Henri, qui parle de Henri de La Roche-Jacquelin.
Et puis il y a d'autres personnes d'ailleurs qu'on va écouter dans la suite, des chanteurs, tu as trouvé un super Louis XVI.
Ah oui,
parce que je l'ai vu en costume, il est crédible. Hein.
C'est vrai qu'il a un petit air, mais c'est un gars exquis, grand chanteur. Donc Olivier Gann, qui a été découvert par Francis Cabrel. Mais Olivier, c'est un gars qui vit sur Pornichet, qui est au service d'autres artistes aussi, parce qu'il aide beaucoup d'artistes. Il tourne de temps en temps. J'aime beaucoup l'humour pétillant d'Olivier, mais au-delà de cela, c'est un... Il aime la grande chanson française et quand je l'ai entendu, je me suis dit, il a une voix très chaude, chaleureuse, solide. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, vraiment intéressant. Et je lui ai proposé d'incarner Louis XVI. Alors il a rigolé, bien sûr. Il m'a dit, attends, ma tête, j'aimerais bien qu'elle reste là où elle est. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je te fais un texte sur mesure. Tu garderas ta tête à la fin, mais viens nous toucher, nous bouleverser avec ta belle voix. Il a accepté.
Alors il y a d'autres personnages comme Cadoudal aussi, un personnage important de la Révolution française. C'est Morgane Marlay. De la chouannerie aussi, évidemment, du Morbihan. Là.
Oui.
Et donc tous ces personnages-là sont interprétés. Mais comment as-tu partagé donc les... Il y a Jean-Claude Drouot qui raconte, qui fait le lien, je suppose, entre des tableaux. Oui. Et pourquoi avoir choisi des personnages plutôt que d'autres? Et que leur fais-tu dire, surtout?
C'est très difficile, parce que c'est vrai que quand vous commencez à camper le décor de cette période, d'abord, il faut se poser la première question. Pourquoi cela s'est produit? Donc, on est obligé de démarrer par le démarrage, c'est-à-dire les États généraux de 1789, où Louis XVI, sous l'impulsion de Necker, qui était son premier ministre, ministre des Finances, lui dit « Le pays et le royaume, puisque c'était un royaume à l'époque, est totalement endetté, on ne peut plus suivre, il faut donc lever de nouveaux impôts. » Donc, il fait appel aux trois grands ordres à l'époque, où il n'y avait pas de vote individuel, il faut bien le savoir. Donc, les tiers-États... où vous avez donc le peuple d'un côté, tiers-état, la noblesse de France et le clergé. Or, évidemment, lorsqu'ils votaient, c'était toujours deux contre un, puisque le clergé et la noblesse pesaient pour deux, logiquement, et le tiers-état, qui était pourtant plus nombreux en nombre de députés...
Et beaucoup plus nombreux.
Oui, mais n'avait pas gain de cause. Ce qui était une des grandes sources de mécontentement et probablement l'une des origines de la Révolution française. Ils ont saisi cette opportunité, les députés, pour imposer le premier président de l'Assemblée nationale, à l'époque, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Non, c'était avant Barrère. C'était un astronome, je ne sais plus. Bon. En tout cas, il s'assoit derrière la grande assemblée, la table, alors que les nobles se sont retirés, il se décrète premier président de l'Assemblée nationale. Cette histoire est dingue. Et après, donc, les satisfactions étant grandes suite aux cahiers de doléances qui sont dans toutes les campagnes où les gens veulent changer le monde, on sort quand même de 1200 ans d'une monarchie.
De plus en plus pesante.
Absolue. C'était pas une monarchie constitutionnelle, c'est une monarchie comme l'Espagne ou comme la Belgique ou l'Angleterre. On était dans une monarchie absolue. Donc, c'est-à-dire le roi avait tous les pouvoirs, il faut bien comprendre. Donc, on peut comprendre ce grand envie de changement. Par contre, ce qu'on peut moins comprendre, c'est ce qui s'est produit après. Donc, bref, on parle de cette date, 1789, et puis on bascule très vite à la Terreur en 1793, où le roi se fait guillotiner. Enfin, bref, où, du coup, si vous n'êtes pas. Ami de la Révolution, le moindre doute, enfin c'est le moindre doute, les procès étaient hyper expéditifs, la guillotine tournait tellement qu'on noyait les gens. À Nantes, on a noyé 5000 personnes. Pourquoi? Parce que la guillotine, il y avait la queue leu-leu à la guillotine, mais c'est la vérité, c'est dans les archives. Alors, c'est bon, voilà, ça, bien sûr, c'était il y a 220 ans, mais ça peut presque nous rappeler des choses un peu aujourd'hui quand même. Hein. Donc voilà.
Et donc il y a beaucoup de personnages. Il y en a un qui est bon, qui est le personnage un peu idyllique, c'est Charles de Bonchamp. Oui. Alors on va l'entendre avec la voix de Renaud de Tressan, de Soldat Louis, et parce que ça s'appelle le pardon de Bonchamp, parce que c'est un personnage qui a su justement pardonner
très
à plusieurs reprises à ses ennemis.
Alors une fois, en tout cas de façon emblématique, il était blessé à mort à Saint-Florent pendant la série de batailles qui a eu lieu dans cette période. Et donc il l'a emmené à Saint-Florent, il était mourant, hein. Il l'a exigé, il a demandé, il l'a fait jurer sur l'honneur à ses lieutenants que les 5000 prisonniers républicains qui étaient des soldats, qui étaient dans l'église de Saint-Florent, donc accumulés dans cette église, parce que 5000 personnes dans une église, je ne sais pas comment ils étaient, enfin bon, et donc qu'ils ne soient pas fusillés, puisque l'armée des Blancs, donc les royalistes, les Vendéens et Bretons et l'Ouest, évidemment, avaient une haine qu'on peut imaginer à ces républicains qui avaient tué tellement de gens aussi. Donc, mais Bonchamp, qui était un homme, qui était un croyant, qui était un type qui avait un grand sens humain, a dit grâce aux prisonniers, cette célèbre phrase, avant de mourir, et il fait jurer à ses lieutenants, effectivement, les 5000 prisonniers sont libérés, dont beaucoup de Nantais. Beaucoup, beaucoup de Nantais. Et c'est d'ailleurs dans les mémoires de Nantes.
Et donc, c'est ce qu'on va entendre chanter maintenant par Renaud de Tressan, le pardon de Bonchamp.
Je m'appelle Charles de Bonchamp. La mort est sur mon dos. Je reviens d'un combat sanglant. Je vais Saint-Florent, 5000 bleus sont enfermés. Ces hommes doivent tous être graciés. Telle est ma volonté. 22 avril 1793, bataille de Pau-Préau. 900 morts, 1200 prisonniers. 5 mai, bataille de Thouars, 800 morts, 3000 prisonniers. Le 25 mai, bataille de Nantes, pas de quartier, 1800 morts. 5 juillet, bataille de Châtillon, notre victoire, mais 4000 morts et autant de prisonniers. Tel fut le prix.
Un troisième extrait donc de cet opéra rock, Chouan, qui va être joué dans très peu de temps maintenant, le samedi 5 mai. Ça a lieu au Vent d'Espace, à Mouilleron le Captif. Et Alan Simon, tu es là pour nous en parler. Et aussi pour bien préciser que c'est pas si cher que ça pour un aussi grand spectacle. Les places sont de 27 à 32 euros. Mm-hmm. C'est un spectacle qui commence à 20h30, donc faut venir un peu avant. Mais ce qu'on vous conseille surtout, c'est de réserver.
Ah oui, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apparemment bougent en dernière minute sur ce projet. Il y a déjà 1000 réservations.
Bon, ouais, donc il faut se presser.
La salle fait 2000, hein, donc ça va encore. Mais attention quand même, parce que c'est typiquement le genre de projet où les gens réagissent un peu en dernière minute.
Oui, donc tous les réseaux, Ticketnet, tout
voilà,
ça.
Voilà, les hypermarchés, les Sésames, enfin bref.
Donc voilà, donc on a fait notre petite publicité. Donc toi, c'est un de tes nombreux projets où tu sais rassembler des gens. Et celui-là, il a été différent des autres en préparation?
Oui. Non, il a été vraiment différent des autres. Il est différent des autres parce que... Comment dire ? Il est tellement lié à notre histoire, il est tellement émouvant, je sens les gens impliqués dedans, on me pose beaucoup de questions, les journalistes viennent vers moi avec des questions étonnantes. Et je vais même terminer avec une petite anecdote parce qu'elle est quand même étonnante. Tu venais de passer le pardon de Bonchamp, qui est donc chanté par Renaud de Tressan. Renaud de Tressan, c'est le descendant de Théodore Botrel, qui est un chansonnier du début du XXe, qui a écrit notamment Le Mouchoir Rouge de Cholet, qui parle des guerres de Vendée. Il a écrit plusieurs textes sur les guerres de Vendée. Et pour le remercier, la famille de La Roche-Jacquelin, je ne le savais pas, c'est lui qui m'a raconté ça, qui est donc le monsieur qu'on voit sur l'affiche, là, ce jeune général de 21 ans, le Che Guevara, on va dire, vendéen, avait des objets, comme tous les généraux, et avait des objets sur lui, notamment le scapulaire, le fameux cœur vendéen, c'est la croix avec le cœur rouge qu'il mettait sur leur costume d'époque. Hein, et puis il avait une vierge blanche sur lui comme pour le protéger. Enfin bon, voilà, c'était comme ça, il avait des reliques. Et ces objets sont maintenant chez Renaud de Tressan.
Ah oui, donc et il les oui. a eus.
C'est absolument incroyable. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, là tu me fais une blague, qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas possible. Il m'a sorti la boîte et j'ai vu les objets. Donc on va, c'est un peu un scoop parce qu'on va l'annoncer le 30 avril. Et je pense que Renault va les remettre au mémorial de Vendée. Et il y a aussi le drapeau vendéen de 1793 qui est souillé de sang. Alors je sais que c'est un peu délirant cette histoire, ça paraît gros comme une maison, mais c'est la vérité.
Bon ben...
Et je suis plutôt c'est le hasard, parce que c'est Renault qui m'a appelé, qui m'a dit j'aimerais bien participer au projet, je souhaitais qu'il soit dans le projet depuis longtemps, mais on n'avait pas se parler, il était avec Soldat Louis en tournée. Et donc il m'a rappelé, on a fait l'enregistrement et c'est là où j'ai découvert qu'il avait ces objets. Et là je me suis dit mais c'est complètement dingue comme hasard. Moi je suis pas un mystique, hein, je vais être honnête avec vous. J'ai simplement un grand respect pour l'histoire et pour nos ancêtres. Mais voilà, donc voir ces objets, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Il faut que voilà, le grand public puisse les voir.
Alors on a parlé assez bien je pense du spectacle pour donner envie aux gens d'aller le voir. Mais il y a beaucoup de musiciens sur scène en dehors des têtes d'affiche. Et il y a aussi de la danse.
Oui.
On t'avait vu déjà dans un ballet qui est Tristan et Iseut, qui était vraiment une réussite et qui tourne maintenant en Russie. Et justement, c'est une danseuse étoile de l'Est qui va mener la danse, on pourrait dire ça dans le spectacle.
Oui, oui, c'est une des étoiles de l'Opéra de Minsk, qui est une jeune femme d'une grande beauté, qui danse magnifiquement bien, qui a beaucoup de charme. Et quand je l'ai vue danser dans Tristan et Iseut, je me suis dit... C'est marrant, mais elle me rappelle quelqu'un. Alors je la regardais, en dehors du fait qu'elle était très jolie, bon, tous les hommes diraient la même chose en la voyant, ce qui est normal, mais même les femmes d'ailleurs, parce que c'est vraiment une très belle femme, et je me suis dit, ah, mais je sais, elle me rappelle l'image de Marianne, l'image idéalisée de la République, de la liberté, l'égalité, la fraternité, la Marianne, telle qu'on peut la voir. Alors il y a des figures où elle est plus ou moins belle, Marianne, mais quand elle est belle, elle est très belle. Mais c'est elle, et du coup je me suis dit, ben voilà, plutôt pour idéaliser la République sur scène, puisque moi je suis là pour raconter évidemment les deux camps, hein, pour qu'on comprenne bien l'histoire, c'est bien qu'on ait la République sur scène, qui danse, qui incarne physiquement la République. Et donc elle a effectivement 6 chorégraphies, qui sont des chorégraphies très techniques, où elle déambule entre les corps de tous ces gens qui vont mourir sur scène. On voit les Vendéens qui tombent. C'est assez hypnotique, assez étrange, mais je pense que ça symbolise bien le grand drame qui s'est produit en 1793.
Bon, merci beaucoup Alain d'être venu nous présenter ce spectacle.
Oui,
évidemment, on va se quitter en musique, parce qu'on avait la possibilité d'écouter 4 titres qu'on pourra retrouver sur disque que à l'automne, en fait.
Oui.
Donc c'était vraiment l'occasion, merci beaucoup de nous les avoir apportés. Bon, donc plaisir. On se quitte avec Cadoudal, un garçon costaud et qui a vraiment fait du bruit à l'époque, en tous les sens du terme, même son attentat à Paris était pas mal contre Napoléon. Et donc, il n'a pas réussi, hein, tout le monde est au courant. Et donc, ça a mal fini pour lui. Donc, on écoute Cadoudal, interprété par Morgane Marley. Et la chanson, c'est Mon petit frère.
Oui, il parle de son... Cadoudal parle de son petit frère, qui était un auteur-compositeur, qui est mort, en fait, à l'âge de 16 ans. Et en fait, Cadoudal rend hommage à son petit frère. Voilà.
Merci Alain.
Vous en prie.
Et à bientôt.
Au revoir. Kenao.
Paysan de nos campagne, ils ont violé nos compagnes. J'ai mal, je pleure, je crie l'horreur. Je tremble, mes mains se figent en vain. J'ai mal, je pleure, je crie l'horreur, je tremble, mes mains se figent en vain. Quand bleu meurt sous vos balles, j'ai mal. je pleure, je crie l'horreur, je tremble, mes mains se fichent.